Bonsoir à tous. Pour commencer, j'avais à cœur de vous partager une expérience qui est pas vieille parce que elle date d'hier soir. Et c'est ce qui m'a, entre autres, inspiré pour ce message. J'étais hier soir avec ma fille au moment de la coucher et elle était en pleurs, en larmes, parce qu'elle avait perdu un dessin qu'elle devait rendre à l'école le lendemain matin. Et ce dessin, sa maîtresse, elle l'attendait, c'était un devoir et ma fille, elle était complètement effondrée parce qu'elle ne trouvait plus son dessin. Alors on l'a cherché, et on a cherché longtemps d'ailleurs, avant de le retrouver. Et alors j'ai réfléchi un peu sur cette histoire. Et la première chose, par rapport à ma fille, la première chose c'est qu'elle avait fait son dessin depuis longtemps, et elle avait perdu aussi depuis longtemps. Mais elle s'en est rendue compte que hier soir, au moment de se coucher, qu'elle n'a pas cherché tout de suite. Et la deuxième chose, c'est que elle s'est rendue compte au dernier moment, puis elle avait peur que on n'ait pas le temps de le chercher, de le retrouver, puis qu'elle puisse le ramener le lendemain. Elle a aussi beaucoup pleuré parce qu'elle avait peur de la sanction de sa maîtresse. Sa maîtresse est un peu sévère et elle avait peur d'être punie. Et elle s'imaginait tout ça. Et puis au final, Dieu a permis. On a fait une petite prière et une petite prière, quoique il n'y a pas de petite ou de grande prière. Mais on a prié le Seigneur pour qu'il nous aide à retrouver son dessein. Et on a retrouvé son dessin. Mais elle était contente. Et au moment où je l'ai couchée, je lui ai dit « Alors t'as vu, tu t'endors en paix maintenant. » Parce qu'elle ne se serait pas endormie si on ne l'avait pas retrouvée. Enfin, du moins, elle aurait très mal dormi. Et elle était contente, elle avait son sourire et elle fait « Oui papa, je suis contente d'avoir retrouvé le dessin. » Et elle s'est endormie tranquillement. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir parce que cette histoire, je me suis dit « Voilà, ça ressemble un peu à notre vie. » Parce que il y a des choses, si on ne les a pas, ou si on les perd, et il y a une sanction, et il y a une condamnation. Et il y a notamment une chose, on a chanté, pour commencer, le premier chant qui dit, tu peux le rafficher, tiens, le premier chant qu'on a chanté. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Si cette assurance-là, on ne l'a plus, la condamnation n'est pas loin. Voilà. Cette assurance, je me permets aussi cette question. Est-ce que vous l'avez déjà ressentie, cette assurance d'avoir vos péchés pardonnés? On peut la perdre, mais on peut ne l'avoir jamais ressentie aussi. C'est encore une question. Et tant qu'on n'y pense pas, on va se dire que tout va bien. Ça me fait penser à ma fille qui, pendant plusieurs jours, avait son dessin de perdu, mais elle s'en était pas rendue compte. Et elle s'était jamais posé la question. Tant qu'on n'y pense pas, tout va bien. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un problème. Et quand on a les yeux ouverts sur une situation, quand on a les yeux ouverts sur le fait qu'on a perdu quelque chose de très important, eh bien, c'est là qu'est le moment de commencer à chercher. Tout à l'heure, on a eu aussi l'histoire d'une sœur qui avait perdu ses clés. Et par rapport aux choses qu'on perd, je crois que plus tôt on s'en rend compte, et plus de chances on a de le retrouver. Parce que plus vite, parce que ça veut dire qu'on est plus proche de l'endroit où on a perdu ce qu'on a perdu. Et donc il est important pour nous de regarder à ça et de vérifier que justement... est-ce que on a perdu ces choses-là? Il était question de l'assurance, du salut. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles. On va prendre deux cas. Un cas, on va dire, j'ai noté extrême, et un cas peut-être un peu plus classique. Dans le livre des Éphésiens, on va lire au chapitre 4. Éphésiens 4, je vais le lire d'abord dans la version que vous avez probablement dans vos Bibles, mais après je vais le lire dans une autre version. Chapitre 4 et au verset 19, je lis ceci. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est un verset qui est très dur, entre guillemets, sur la situation de certaines personnes. La version que j'aimerais, sur laquelle on s'arrête ce soir, est dit ceci, et je vais la lire lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Ayant fait taire la voix de leur conscience. Ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans l'inconduite et dans toutes sortes de débordements. Aussi ne recule-t-il devant rien pour satisfaire leur désir passionné et leur avidité. Quand on connaît le verset par cœur, ça change un peu. Mais il y a des choses qu'on peut-être on peut mieux saisir avec cette version-là. La première chose qu'on voit, il est question de la voix de la conscience, ayant fait taire la voix de leur conscience. À quoi sert la conscience? Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, elle a une voix. Deux passages que je vais vous citer, ne cherchez pas. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit, chapitre 9, verset 1er, il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Donc on est en train de voir par cette simple citation qu'il y a une connexion entre des choses spirituelles et notre conscience. Un autre texte, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 9, « Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Les hommes étaient assemblés autour d'une femme, pécheresse, ils étaient tous en train de l'accuser. Ils voulaient qu'il y ait une condamnation qui tombe sur elle. Et à un moment donné, Jésus a posé cette question, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, chacun a commencé à réfléchir. Chacun a commencé intérieurement à se dire, mince, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux lancer la pierre? La voix de la conscience. La conscience, c'est une porte d'entrée vers les choses de Dieu. C'est une porte d'entrée vers le ciel. La conscience, Dieu s'en sert. Parce que par la conscience, on a une notion de bien, on a une notion de mal. Et cette conscience, parfois, elle va même jusqu'à nous déranger. Et il y a des fois certaines choses que la conscience va nous dire et qui vont nous déranger, qui ne vont pas nous faire plaisir. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là, parfois? On la fait taire. Comme il est écrit, « ayant fait taire la voix de leur conscience ». Qu'est-ce qui se passe si au fur et à mesure que ma conscience me reproche des choses, je la fais taire à chaque fois? Elle va s'atrophier, la conscience. Elle va devenir rien du tout. Elle va mourir parce qu'on ne l'écoutera plus. Si je reprends ce verset, il est dit « Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle. » Cela nous montre encore que la conscience est reliée avec les choses de Dieu. La conscience, une fois qu'on l'a atrophiée, on n'est plus capable d'entendre la voix de Dieu qui utilisait cette conscience pour nous parler, entre autres. On n'est plus capable d'écouter notre conscience parce qu'on l'a tellement fait taire qu'elle n'ose même plus parler. Et si jamais Dieu voulait l'utiliser, il ne peut plus. L'apathie, j'ai regardé ce que M. Larousse dit, c'est une indolence, c'est une indifférence de quelqu'un poussé jusqu'à l'insensibilité complète. Quelqu'un qui est apathique, il est complètement insensible. Ça veut dire que ce soit bien, que ce soit mal, ça fait rien. Alors quand on en arrive là, on peut comprendre la suite, parce qu'on voit que finalement, C'est une chute vertigineuse, ce verset. « Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral. » Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est juste qu'une conséquence logique de cette apathie spirituelle, de ce fait qu'on n'écoute pas la conscience. Parce que ce qui se passe, c'est que la conscience qui nous sert à nous remettre d'aplomb par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, etc., aux valeurs, eh bien, on est complètement déréglé. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On ne sait plus s'il faut faire ceci, s'il faut faire cela. On ne sait même plus ce qu'est le bien, on ne sait même plus ce qu'est le mal, parce que la conscience, on l'a tellement fait taire qu'on n'en sait plus rien. On a perdu toute pudeur, tout sens moral. C'est quoi la pudeur? C'est quoi le sens moral? Là aussi, j'ai utilisé mon dictionnaire. La pudeur, C'est une disposition à éprouver de la gêne devant ce qui peut blesser la décence, devant l'évocation de choses très personnelles, et en particulier l'évocation de choses sexuelles. C'est un manque de pudeur. On a fait taire notre conscience, on est tombé, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, et on commence à faire n'importe quoi. On voit que Dieu, il a créé l'homme et la femme pour qu'ils s'unissent et qu'ils deviennent des parents, qu'ils aient une famille. Et ça, c'est ce que Dieu bénit. Dieu bénit la famille. Quand on commence à partir ailleurs, on n'est plus dans ce que la Bible dit, on n'est plus dans ce que Dieu a institué. Et là, déjà, on commence à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Le sens moral, c'est pareil. On a perdu complètement la notion de ce qui est bien, de ce qui est mal. On est complètement désorienté. Et la descente continue. Je reprends mon verset. « Ayant fait taire la voix de leur conscience, ces hommes, dans leur apathie spirituelle, ont perdu toute pudeur et tout sens moral, au point de se jeter avec une frénésie insatiable dans la conduite et dans toutes sortes de débordements. » Ça continue, ça continue, ça continue. On descend et on descend. Notre corps nous réclame toujours plus. On va tomber dans l'égoïsme le plus absolu parce que il en faut que pour moi. Je veux plus de sensations. Je veux en avoir toujours plus. Je veux toujours plus d'argent. Je veux toujours plus d'honneur. Je veux toujours plus de ceci, de cela. Tout se centre sur moi. Je veux expérimenter de plus en plus de choses parce que finalement, ce que j'expérimente aujourd'hui ne me convient plus. Donc je veux aller plus loin. Et on va ainsi dans des choses qui déplaisent à Dieu. Et on est toujours dans cette optique où on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, et on fait complètement n'importe quoi. C'est la chute libre. La frénésie, qu'est-ce que c'est? C'est une fureur violente. Ça aussi, j'ai beaucoup utilisé le dictionnaire pour ce message. Toute passion parvenue à un degré d'extrême violence et confinant à la folie. Ça, c'est la frénésie. Insatiable, ça veut dire que ça ne peut nourrir. Donc on est de plus en plus violent pour aller vers ce qui va vers les débordements. On ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, et on continue, et on chute, et on chute, et on chute, et on tombe, et on tombe, et on tombe très 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 bas. Quand je regarde les nouvelles, je me dis que notre société d'aujourd'hui ressemble très très bien à cette description. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais quand je vois que dans notre société d'aujourd'hui, on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. La famille, on sait même plus ce que c'est finalement, parce que il y a des familles recomposées, il y a tout ça. Enfin, bref, je veux pas faire de la morale, c'est pas le but. Mais quand même, on est dans une société où l'homme est complètement perdu. L'homme n'a plus de repères. L'homme ne sait plus où il va. Il ne sait plus ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et puis de toute façon, on ira tous au paradis. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas ça. Dieu est amour, c'est vrai, mais Dieu est juste. Et donc celui qui ne croira pas sera condamné. Et ça, la Bible le dit. Alors, vous vous dites peut-être, bon d'accord, la description est très très noire, moi je suis quand même pas dans ce cas-là. J'en suis pas là. Alors, on pourrait regarder un autre texte. Dans Luc, au chapitre 18. On va revenir après ce passage d'Éphésiens, parce que finalement ce qui précède, c'est le début de la chute, et je ne l'ai pas lu exprès. Luc, chapitre 18, si je lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, nous avons cette histoire que peut-être vous avez déjà entendue. Il dit encore cette parole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus et je m'arrête là par rapport à ma description. Ce verset nous dit justement, Jésus insiste sur le fait que ce sont des personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes. Alors par rapport à cette attitude, j'ai noté 2-3 petites choses. Il est question d'un pharisien. Pharisien, c'est le pasteur de l'époque. Et déjà, il a un bon point, c'est qu'il prie. Jésus dit qu'il prie. Mais par contre, le problème, c'est que ce pasteur, il est dans une illusion qui est totale. Il a perdu la vue. Lui aussi, il a perdu quelque chose. Alors par contre, on voit quand même qu'il a un peu de retenue, ce pharisien. Parce que cette prière qui nous est donnée là, c'est une prière qu'il a dans son cœur. On a tendance à l'oublier, on se dit, ce pharisien, il est peut-être un peu gonflé de prier comme ça. Et c'est dans son cœur. Est-ce que nous, des fois, ça ne nous est pas arrivé d'avoir ce regard comme ça, un peu méprisant sur ceux qui nous entourent? Je m'adresse peut-être à ceux qui ont déjà donné leur cœur au Seigneur, mais quand même, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que des fois, on n'a pas été pris d'être méprisant envers quelqu'un qui rentre dans cette maison? Et voilà. Et là, on fait la même erreur que ce pharisien. C'est facile de jeter des pierres aussi sur ce pharisien. Mais voilà, cette prière, c'est une prière de son cœur. S'il fallait qu'on dise, nous, à haute voix, tout ce qu'on pensait, tout ce qui était dans notre cœur, je crois qu'on choquerait tous, plus d'un, avec chacun de nos propos. Ce pharisien, il en est de même. C'est une prière qu'il fait dans son cœur. Ce pharisien, qu'est-ce qu'il fait? Il se compare. Alors que devant Dieu, il n'y a pas sujet de se comparer. Devant Dieu, est-ce que je suis en règle, oui ou non? C'est tout. Il n'y a pas à savoir ce que fait l'autre. Le pharisien, il se compare. Et il essaie de se justifier par tout le bien qu'il fait en comparant à l'autre. Mais l'histoire de l'autre, ce n'est pas son histoire. C'est tout. Ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas les mêmes difficultés. Chacun son histoire. Chacun son choix. Le Seigneur nous place devant un choix, de l'accepter ou de le refuser, peu importe le choix du voisin. Et c'est là qu'on voit que l'attitude de ce pharisien n'est pas bonne, parce qu'il essaye de se justifier et il croit que par tout ce qu'il fait de bien, en comparant à ce que ne fait pas l'autre, peut-être, il sera justifié, mais ce n'est pas ça. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ce sont les œuvres qui nous sauvent? Non. Est-ce que, une autre question, est-ce que ce sont nos œuvres qui nous perdent? Je dirais non plus. Ce qui nous perd, c'est notre nature pécheresse. Et il n'est pas question d'œuvre. Si vous prenez je vais vous citer aussi ce texte. C'est l'apôtre Paul qui parle, quand il écrit aux Romains, il dit ceci dans Romains chapitre 7 au verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il parle de son propre corps. Notre corps est marqué par le péché. Notre corps est ainsi fait et on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas prétendre à quelconque salut dans ce corps. Une autre version de ce même texte dit ceci, « Quel déchirement terrible, infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse ?» Parce que cette nature qui est pécheresse nous pousse à faire le mal. Et là, on franchit une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Et en franchissant cette ligne, on est perdu. Et cette ligne, la Bible nous dit, dans le psaume 14, qu'on l'a tous franchi. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. On a tous franchi cette ligne. Personne ne peut être sauvé. Mais qu'est-ce qui nous sauve? Alors, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est quoi? C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Dans Romains, chapitre 8, et au verset 1er, l'apôtre Paul écrit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Remarquez ce verbe. Il n'est pas question de ceux qui ont cru, il est question de ceux qui sont. Ça veut dire qu'on a une identification totale à ce que Jésus a fait à la croix. Ça veut dire que quand je regarde Jésus sur la croix, c'est moi qui est sur la croix. Ça veut dire que Jésus, il est mort pour moi à ma place. Ça veut dire que je peux croire que tout ce qu'il a souffert, alors que Jésus n'a pas commis un seul péché, il est mort à ma place. Et parce que lui a fait sur cette croix, au calvaire, parce que son sang a coulé, c'est moi qui est sur cette croix. Et ça veut dire que par ce qu'il a fait, je peux être sauvé. La seule œuvre qui nous sauve, c'est celle de la croix. La seule œuvre qui nous rapproche de Dieu, c'est celle de la croix. Qu'on ait été au plus bas fond, ou que nous ayons été de simples monsieur tout le monde, je dirais, qui se croient bien, on a tous besoin de ce que Jésus a fait à la croix, parce qu'un jour, on a tous franchi cette ligne que notre nature pécheresse nous a poussé à franchir, comme le dit l'apôtre Paul. Si j'inverse ce verset 8, ce verset que je viens de citer, et il y a une autre vérité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi si je le lis dans l'autre sens? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ seront condamnés. C'est ce que la Bible dit. Celui qui n'est pas en Jésus-Christ sera condamné. Celui qui ne croira pas que Jésus est venu sur la terre pour mourir sur cette croix à sa place sera condamné. Il y a une condamnation. C'est bien de parler du paradis, de l'amour de Dieu, mais l'enfer existe aussi. Et si vous n'êtes pas d'accord, je n'y suis pour rien. C'est la Bible qui le dit. L'enfer existe. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que si ce soir tu devais partir, on a chanté, est-ce que ce serait la dernière fois? Est-ce que si ce soir tu venais à partir, tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais si tu venais à mourir en sortant de ce lieu, est-ce que tu vas au paradis ou est-ce que tu vas en enfer? Le choix, il faut le faire de votre vivant. Il y a la dernière chose, et je vais terminer là-dessus. C'est qu'il y a un dernier danger quand on s'obstine à refuser l'appel de Dieu. Reprenez avec moi Éphésiens. Toujours au chapitre 4. Et je vais relire maintenant ce qui précède. Alors, excusez-moi, je vais le lire aussi dans cette version. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Je commence au verset 17 et je lis ceci. Par conséquent, voici ce que je voudrais sérieusement vous mettre à cœur. Je vous conjure solennellement, au nom du Seigneur et en sa présence, d'abandonner la vie superficielle et vaine des sans-dieux. Donc les sans-dieux, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne se soucient pas de Dieu, qui vivent en aveugle dans un monde d'illusions, comme ce pharisien que j'ai présenté. En suivant leurs pensées vides de sens, ils ne connaissent rien de mieux. Leur jugement obscurci les fait errer, leur ignorance volontaire et l'endurcissement de leur cœur ont obnubilé leur compréhension, de sorte que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Ils se sont ainsi eux-mêmes bannis de la vie qui vient de Dieu. L'ignorance volontaire, c'est celui qui ne veut pas croire. C'est celui qui ne veut pas être en Jésus et il sera condamné. Il y en a qui pourraient savoir la vérité, mais ils ne veulent pas la savoir. Parce qu'ils ont peur de la réalité des choses. Ils ont peur d'avoir à se mettre en règle avec Dieu. Parce que Dieu va leur dire, voilà, il y a telle et telle chose qu'il faut que tu règles. Mais comme ils ne veulent pas régler ces choses, on fait semblant de ne pas voir. Mais à force, ce verset nous disait que leur esprit s'est émoussé jusqu'à devenir insensible à Dieu. Le danger, c'est celui-ci. Le vrai danger, c'est celui-ci. Celui qui refuse et qui s'obstine à refuser, c'est comme la conscience, ça s'atrophie. Et on s'endurcit, et on s'endurcit, et on s'endurcit. Et on va écouter, on revient, on écoute le message à nouveau, mais ça ne fait plus rien, ça ne fait plus d'effet. Ça fait trop longtemps que nous venons et que nous n'écoutons pas. Quand je dis écouter, c'est aussi obéir. quand Dieu te dit de te repentir et que tu ne le fais pas, tu désobéis, mais aussi tu t'endurcis. Et ça, c'est grave parce que le problème, c'est qu'à force de t'endurcir, tu pourras revenir et revenir et revenir à nouveau. Ça ne te fera plus rien. Quel danger ! Quel danger que de venir et que la parole qui vient de Dieu ne te fasse rien parce que tu es trop dur. C'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses être avec lui. Le Seigneur désire que tu puisses avoir justement retrouvé ou avoir, si tu l'as jamais possédé, cette communion, cette assurance du salut, cette chose qui t'évitera la sanction. Le Seigneur, il veut renouveler cette relation que tu n'as peut-être plus ou que tu n'as jamais eue. Il veut te la donner. Le Seigneur veut te la donner. Simplement, il te faut croire ce que Jésus a accompli à la croix. Et il te faut aussi renoncer à tes péchés. C'est pas le tout de dire pardon au Seigneur Jésus, mais il faut derrière que ça se transforme en acte. Ça veut dire que la repentance, c'est pas simplement de dire pardon et de repartir comme on était. C'est simplement de dire pardon, mais aussi d'arrêter ce qui déplaît à Dieu. Et ça, quand on a fait cette vraie démarche sincère et honnête, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous met à cœur d'arrêter ces choses. Le Seigneur veut mettre la paix dans ta vie. Le Seigneur Jésus veut venir dans ta vie et mettre cette joie que peut-être tu n'as jamais ressentie. Cet amour que peut-être tu n'as jamais ressenti jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, il est là parmi nous cet après-midi, c'est écrit dans sa parole, ce soir. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. On ne le sent pas forcément, mais la parole nous dit qu'il est là. Et c'est là-dessus qu'on s'appuie.